Alors, bienvenue à chacun et à chacune pour cet enseignement qui est enregistré, cet enseignement du cycle 2 sur l'approfondissement de la vie spirituelle et particulièrement l'exercice de la foi, de l'espérance et de la charité. Voilà. Alors, la Providence fait bien les choses. Je dirais qu'on l'a un peu aidé. C'est que nous avons placé cet enseignement dans la fête, la solennité du baptême du Seigneur. Et nous savons que le baptême du Christ, le baptême pour un chrétien, c'est vraiment vivre de vie surnaturelle, et c'est vivre de foi, d'espérance et de charité. Voilà. La vie d'un chrétien est la vie de Monsieur Tout-le-Monde, de Madame Tout-le-Monde. C'est une vie avec des joies, avec des difficultés, avec toutes sortes de choses, des engagements tous différents, mais c'est une vie comme Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde. Seulement, la vie d'un chrétien, quand c'est une vie chrétienne mûre, adulte, je ne parle pas d'âge, mais je parle de profondeur, est une vie surnaturelle. Si en apparence, premièrement, elle ne se différencie en rien des autres, en profondeur, c'est bien différent. Parce qu'une vie chrétienne, c'est vivre l'ordinaire de manière extraordinaire. C'est vivre le surnaturel dans le quotidien. C'est s'habituer à vivre chaque moment dans le surnaturel. Et c'est pour ça qu'au baptême nous est donné le kit qui va nous permettre de nous connecter à la vie surnaturelle, qu'ils sont les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Alors à partir du petit abrégé du catéchisme de l'Église catholique, nous allons creuser ensemble ce qu'est les vertus, pour comprendre ce que sont les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Nous avons tous besoin de vertus pour vivre une vie belle, digne, vraiment humaine. Et les vertus ne sont pas d'abord la chasse gardée des chrétiens, parce que les vertus sont partagées par les non-croyants, par d'autres personnes, d'autres religions. Et des fois, ils peuvent même nous édifier par leurs vertus, la manière dont ils sont exemplaires dans tel ou tel domaine, voire même héroïques. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu ? Une vertu nous donnerait comme définition l'abrégé du catéchisme, c'est une disposition habituelle et ferme, à faire le bien. Il existe des vertus humaines, et en régime chrétien, il existe des vertus théologales surnaturelles. Grégoire de Nice, un père de l'Église, Saint Grégoire de Nice, disait « Le but d'une vie vertueuse consiste à devenir semblable à Dieu. » Alors, la vie vertueuse, c'est celui qui exerce les vertus. Celui qui exerce le contraire des vertus, les vices, au fur et à mesure, il a une vie vicieuse. C'est l'inverse. Exercer des vertus, c'est comme du sport. Ça demande de les pratiquer et ça devient une habitude. En théologie, on appelle ça un habitus. On s'exerce à telle ou telle vertu. Par exemple, j'apprends à être patient, ça n'est pas naturel. Avec le temps, j'accepte, je patiente en face de la personne importune, etc. Et j'ai acquis l'habitude, l'habitus de la patience. De même pour la bienveillance, etc. Donc c'est un exercice de style qui nous bonifie, qui bonifie notre qualité, qui a une fécondité humaine. Voilà. On a besoin de vertu. Et c'est de plus en plus facile. Il y a peut-être des moments où c'est difficile à vivre la vertu, d'où l'expression « garder sa vertu ». Mais, toujours est-il, que ça se pratique. Et généralement, c'est comme du vélo. Plus on en fait, plus normalement on va vite, et on sent de moins en moins le pédalier. De la même manière, pratiquer le vice abîme, parce que ce ça ne produit pas de fruits, ça détruit nos talents. Mais de vice en vice, on s'enferme dans une vie vicieuse. Et donc, il est très difficile pour le très vicieux de refaire machine arrière. Donc, l'habitude que nous prenons, en vertu ou en vie, crée en nous des plis, des habitudes, qui, quelque part, conditionneront notre fait à l'accès au bonheur ou pas. Ces vertus-là, elles sont d'abord humaines. Et l'éducation, chers parents, vous éduquez vos enfants à une vie vertueuse. Voilà, selon différents critères. Et nous disons, les vertus humaines sont, définition de la Brigitte catéchisme de l'Église catholique, sont des dispositions habituelles et stables. Dispositions habituelles et stables, c'est un acquis, j'ai acquis telle vertu. De l'intelligence et de la volonté, volonté à faire telle chose, intelligence à comprendre telle chose, qui règle nos actes, ordonne nos passions et guide notre conduite selon la raison et la foi. Acquise et renforcée par des actes moralement bons et répétés, on voit le sport là, elles sont purifiées et élevées par la grâce divine. On va y dire, elles sont purifiées et élevées au niveau supérieur par la grâce divine, vertu surnaturelle. Les vertus humaines, vous savez, il y a des grandes familles, c'est des définitions, mais ça regroupe l'agir chrétien. On a des grandes familles pour les péchés, les sept fameux sept péchés capitaux, qui regroupent toutes les formes de péchés. De la même manière, au niveau humain d'abord, on a des grandes familles de vertus, qui sont, je vous dis encore, pratiquées de manière exemplaire par des croyants, des non-croyants. Ce sont les vertus de prudence, de justice, de force et de tempérance. La prudence, c'est une vertu qui dispose la raison à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les moyens appropriés pour l'atteindre. Donc on voit que c'est le discernement de ce qui est bien, de ce qui est très bien, de ce qui est mal, de ce qui est très mal, et c'est le comment je mets en place dans ma vie la direction pour y arriver. Comment je me donne les moyens, le discernement et le discernement des moyens. Voilà. Cette vertu est première. Quelqu'un qui est imprudent peut rater sa vie, quelqu'un qui est imprudent peut perdre sa vertu, quelqu'un qui est imprudent peut mettre les choses dans le mauvais ordre. Voilà. Cette vertu de prudence guide les autres vertus et en leur indiquant les règles et les mesures. Il y a une chose pour chaque chose, un temps pour chaque chose, etc. Donc ça, c'est très important. Et on va voir que c'est aussi important pour le domaine surnaturel. Il y a une vertu de justice. La justice, qu'est-ce que c'est cette vertu? Ça consiste dans la volonté constante et ferme à donner à autrui ce qui lui est dû. Je donne à mon mari, à ma femme, ce qui lui est dû. Et il lui est dû beaucoup, puisque c'est mon conjoint, ma conjointe. Je donne à mes enfants plus qu'aux enfants du voisin, parce que c'est mes enfants. Je donne à la société ce qui lui est dû. Pas toute ma vie, mais il lui est dû quand même beaucoup, pour le bien commun. Je paye mes impôts, vertu de justice. Mon surplus, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le donne aux pauvres? Vertu de justice. Le développement durable, vertu de justice. Je rends à chacun ce qui lui est dû. Honore ton père et ta mère dans le décalogue, c'est la loi naturelle, vertu de justice. Et honore ton créateur, vertu de justice. Article 2, c'est la vertu de religion dans la vertu de justice. Elle est naturelle, pas surnaturelle. Parce qu'en normalement, rationnellement, l'homme atteint par sa raison Dieu. Donc, eh oui, il y a 85% sur la population qui sont croyants. Tout le monde n'a pas la foi. Avec le bon sens, on peut penser Dieu. Et ces gens exercent la vertu de justice. Et ce qui relève de Dieu, rendre au Créateur ce qui lui est dû, c'est la vertu naturelle de religion. Et on verra que la foi chrétienne à son sous-bassement sur une vertu naturelle, la vertu de religion. Rendre à Dieu ce qui lui est dû. Voilà. Pour cela, les Grecs étaient des gens vertueux. Ils rendaient à Dieu ce qui lui est dû. Ou Dieu. Voilà. De la même manière, la troisième vertu même, la vertu de force. Si la prudence discerne et se donne les moyens pour, si la vertu de justice prend à chacun ce qui lui est dû comme bien, et aussi pour soi, qu'est-ce qui m'est dû en justice? La vertu de force, c'est la vertu qui assure la fermeté dans les difficultés, la constance dans la recherche du bien. Elle peut aller jusqu'à la capacité de faire éventuellement le sacrifice de sa vie pour défendre une cause juste, c'est-à-dire cet aspect de persévérance dans l'engagement en vue de faire le bien. Et souvent, nous sommes en crise sur cette vertu. Évidemment, la prudence peut être abîmée quand nous n'avons pas une claire conscience du bien, quand la conscience est erronée, et du coup, nous ne savons pas à qui rendre. J'ai dit la prudence est première, nous ne savons pas à qui rendre quoi, du coup la justice est touchée. Mais avant ça, il y a comme aujourd'hui, et je me mets dedans, une époque un peu flasque. Nous n'arrivons pas à véritablement nous engager à faire le bien constamment. On ne l'a jamais fait, me diriez-vous, nous sommes pécheurs. Mais aujourd'hui, la crise de l'engagement montre la crise de la vertu de force. Il est difficile de tenir. Où sont les hommes? Voyez, on a l'impression qu'on est adolescent. Où sont les hommes qui s'engagent durablement? Donc ça, c'est dans l'éducation à redonner ce goût de persévérer, le goût de l'effort, le goût du sacrifice, aller au-delà. C'est dur, on y va. C'est très important parce que cette vertu humaine, elle a des implications sur la vie surnaturelle. On se décourage parfois en surnaturel parce que la vertu humaine n'est pas là. Et la grâce ne supprime pas la nature, il faut aussi travailler sa nature. C'est du sport, on s'exerce. Celui qui exerce sa vertu de force, il devient de plus en plus convaincu. Il a une force de caractère. On a un tempérament, on se forge le caractère. Ça, c'est la vertu de force. Quatrième vertu, c'est la vertu de tempérance. Je disais donc que la quatrième vertu, c'est la vertu de tempérance. Quel est son intérêt? Si la première nous aide à discerner, nous donner les moyens, si la deuxième permet de donner à chacun ce qui lui est dû, si la troisième, très importante, nous permet de nous donner pour arriver au but, jusqu'à nous donner totalement, la quatrième modère l'attrait des plaisirs, assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et rend capable d'équilibre dans l'usage des biens créés. Assure la maîtrise de la volonté sur les instincts ou modère l'attrait des plaisirs. Voyez-vous, si nous ne sommes pas tempérants, nous sommes esclaves de nos passions. Si nous sommes esclaves de nos passions, nous avons beau hiérarchiser avec la prudence ce qui est bien, nous n'arrivons pas à être maîtres de nous-mêmes, nous n'arrivons pas à renoncer. Et donc il faut une forme d'ascèse nécessaire qui existe bien avant le christianisme, dans tout humanisme. Grandir, c'est savoir faire des choix, c'est savoir renoncer. De même, si on veut à un moment donné être adulte, il faut être maître de ses passions. Ça ne veut pas dire les annuler, mais être maître. Ou savoir placer telle passion en dessous de telle passion plus importante. D'où la vertu de tempérance. Remettre à chaque chose sa place aussi. Hein, voilà. Rend capable d'équilibre de mon usage des biens créés. Si je mange 8 éclairs en chocolat tous les jours, il n'est pas certain que je sois tempérant, que j'ai la vertu de tempérance. Oui. Ça me fait du bien au début, au final, ça me fait des caries et ça me fait mal au foie. Et on voit qu'une vie vertueuse fait du bien. C'est du bien à long terme, mais ça coûte au départ. C'est pareil pour la foi. Alors là, c'est la vertu naturelle. Et tout homme, vous avez des gens qui les exercent de manière très belle, dans le don d'eux-mêmes, dans la philanthropie, et qui vont jusqu'à être des héros, des gens exemplaires, des grands humanistes. Et nous pouvons prendre modèle sur eux, sur bien des aspects, et l'Écriture appelle qu'il nous faut nous émerveiller dans Philippiens de tout ce qui est noble. Faites les vôtres, tout ce qui est noble. Donc il est important dans l'éducation de rappeler ces vertus. Quand on éduque la morale, c'est les vertus, en vue de faire le bien. de grandir. Ceci dit, le héros, le grand humaniste, n'est pas le saint. Le saint peut être plus fragile, peut être moins doué, moins capable d'aller jusqu'au bout avec ses propres forces, mais il va toucher Dieu, ce que ne fera pas le héros ni l'humaniste, parce que le premier aura vécu de manière naturelle, mais le second va vivre de manière surnaturelle. Et ce qui nous intéresse, nous, chrétiens, c'est de vivre de manière surnaturelle. Donc, ça relève de plus grand que nous, aussi grande soit notre bonne volonté. Et pour deux raisons. Parce que la première, nous sommes tous pécheurs, ça fait partie de notre condition humaine, et comme le dit Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire, ça arrive toujours. Donc il est très difficile à tout être humain d'arriver au bout d'une vie vertueuse, normale, naturelle. On n'y arrive jamais au bout. Et deuxièmement, nous sommes destinés pour plus grand. Donc il ne faut pas rabaisser la vie humaine à simplement un humanisme, si digne et héroïque soit-il, la vie humaine, elle est faite pour Dieu. Mais elle n'est accessible que si Dieu la donne, c'est la vie surnaturelle. Et donc Dieu nous est donné, au baptême, Dieu nous a donné les vertus surnaturelles, qui ne sont pas de l'acquis comme les vertus naturelles, qui sont tout de suite données au baptême. Le kit est donné, la vertu de foi, d'espérance et de charité se greffe dans l'âme, le kit est donné. Ce sont, comme dirait le père Marie-Eugène, un grand carme du XXe siècle, un maître spirituel, trois antennes qui nous permettent de pouvoir communiquer avec Dieu, d'être sur la longueur d'onde de Dieu et de pouvoir de l'écouter, d'agir avec sa grâce. Une fois que nous avons ces antennes-là, rien ne nous manque pour le dispositif du croyant. Voilà. Ces vertus théologales s'appellent théologales car elles ont Dieu lui-même pour origine, pour motif et pour objet immédiat. L'Église nous dit qu'elles sont infuses, elles sont directement données. Voilà. Et elles nous permettent de nous mettre directement en relation avec la Trinité. Ces vertus théologales vont avoir des conséquences si elles sont déployées, parce que ce sont aussi des vertus, ça se déploie, dans ma vie quotidienne, et du coup mon ordinaire, si héroïque soit-il, ou si humble soit-il, peut devenir extraordinaire, surnaturel, unique. Alors commençons par la première, qui est la foi. Il y a un ordre des vertus, qui est foi, espérance, charité. Cet ordre, on pourrait dire, les trois sont donnés d'un coup, et généralement dans un acte chrétien, les trois peuvent être même faits d'un coup. Ceci dit, il y a comme une sorte d'ordre, de crescendo, qui veut que chronologiquement, la foi soit première, l'espérance soit seconde, et soit dernière la charité. Ça, c'est au niveau de la chronologie. Au niveau de la perfection, c'est la troisième qui est la plus grande, c'est la charité. Et c'est ce que nous dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. C'est la dernière, je dirais, dans le déploiement chronologique, voilà, mais c'est la première dans l'ordre de la perfection. Et comme dirait saint Jean de la Croix, un autre grand carme, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Et quand il dit cela, il parle de la charité. Alors commençons par la foi, si c'est la première, dans l'ordre chronologique. Souvent, généralement, on entend cette parole, parce qu'il faut faire une statistique, faisons-en, pour illustrer mon exemple. Nous avons 60% de baptisés en France, c'est pas un jugement critique, mais c'est un constat. Nous avons 4,5% de pratiquants, c'est pas un jugement, on aimerait qu'il y en ait plus. On voit que ça arrive un peu, gloire à Dieu. Mais plus des 55% diraient « J'ai été baptisé, mais j'ai pas la foi. » Alors, si on y regarde de plus près, on peut dire que ces gens se trompent, et pourtant, il semblerait qu'ils expérimentent quelque chose de vrai. Mais ils se trompent. Il faut pouvoir leur répondre en disant « Vous vous trompez, vous avez la foi, mais vous ne savez pas vous en servir. » Effectivement, si vous êtes baptisé, vous avez reçu le don surnaturel de Dieu de la foi. Vous avez le kit complet en vous, foi, espérance et charité. Mais vous ne savez pas l'utiliser. Et donc, du coup, dans le « j'ai pas la foi », qu'est-ce qu'il y a ? Il y a « je ne sais pas comment rentrer en contact avec Dieu ». J'ai telle ou telle idée sur Dieu qui ne correspond pas à ce que telle ou telle idée dit de l'Église. En fait, je ne sais pas vraiment qui est Dieu, comment il parle. Je ne l'entends pas dans la prière. Ça semble pas produire d'effet sur moi. C'est tout ça qui est dit dans « j'ai pas la foi ». Et donc, en fait, je vous ai dit, ils ont reçu le don de foi, mais en réalité, ils ne savent pas s'en servir. Ce qui est tout à fait différent. C'est un peu comme si vous aviez, et souvent j'emploie cet exemple pour les personnes qui préparent un enfant au baptême, reçu un téléphone portable en vous, mais vous ne l'avez pas ouvert et vous n'avez jamais mis en contact. Mais vous avez le téléphone, vous pouvez vous en servir. Donc tout l'enjeu est de vivre de vie surnaturelle et de se servir de cette vertu de foi qui est déjà donnée. Et des fois même, cette vie surnaturelle est donnée en amont du baptême à des adultes. Effectivement, il y a des gens qui sont attirés par Dieu et Jésus dira « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire » et ils reçoivent ce que la théologie appelle des grâces prévenantes où Dieu, quelque part, ils ont une connaissance naturelle de Dieu, comme je vous ai dit, la vertu de justice, vertu de religion, et en même temps, ils sentent bien que Jésus est vrai, ils ont déjà foi en lui sans le baptême, Dieu les quelque part les illumine. Alors, c'est quoi la différence, le baptême et la foi sans le baptême ? C'est que le baptême va stabiliser cette grâce de manière définitive dans l'âme et va la donner de manière pleine et incorpore le sujet qui accepte d'être baptisé à une relation unique avec la Trinité. Avant, on la voit du dehors, là, on la voit dedans. Donc c'est du durable. J'allais dire, avant le courant, il est discontinu, là, il peut être continu en 3G, en 4G. Avant, c'est du télégraphe. Donc il y a vraiment une grâce qui est donnée. Mais la foi, il y en a qui ont plus la foi qu'un baptisé qui ne sait pas se servir de sa vertu de foi. Donc tout l'enjeu, c'est de se servir de sa vertu de foi pour vivre le naturel de manière extraordinaire, surnaturelle. Alors commençons par la vertu de foi. C'est une lumière. D'où le pape François qui, dans son encyclique sur la foi, a appelé ça la lumière de la foi, Lumen Fidei. Quel est l'intérêt de la lumière ? La lumière, et c'est pour ça qu'à la veillée pascale, on éclaire le cierge pascal, la lumière. Voilà. La vertu de la lumière, c'est qu'elle me fait voir les choses, elle brille dans les ténèbres ne l'ont pas arrêtée, dirait saint Jean. Ça veut dire qu'elle me permet de voir le réel tel qu'il est réellement, dans sa totalité. Sans la vertu de foi, je ne vois pas plus loin que mon bout de nez, mais je vois pas, je peux avoir plein de connaissances d'érudition, mais je ne vois pas tout le cosmos, ni la finalité de pourquoi le cosmos il est fait, ni vraiment ce qu'est un être humain en profondeur. C'est la vertu de foi qui m'éclaire sur le sens le plus profond de l'homme, sur le pourquoi je suis ici, et sur dans la vision de tout le cosmos. Effectivement, il y a l'univers visible, mais il y a aussi l'univers invisible. Sans la foi, je ne vois, je ne veux pas, je n'y ai pas accès. La foi me permet de voir cela. Alors me diriez-vous, on croit, on ne voit pas. Je vous réponds oui. Ceci dit, ce n'est pas complètement vrai. On croit, mais on ne voit pas. Mais celui qui s'habitue à croire commence à voir les événements qu'il vit avec une nouvelle vision. Une vision spirituelle, une vision de foi. Et petit à petit, chaque événement devient extraordinaire, même le plus banal. Et il sait repérer la présence de Dieu parce qu'il a appris à s'habituer à voir dans la foi ce qu'il est, ce qu'est l'autre, ce qu'est le cosmos, à voir le combat spirituel, à tout voir. Quelqu'un qui s'est habitué à voir dans la foi, c'est saint Jean, par exemple. Saint Jean, dans le chapitre 20, verset 20, qu'est-ce qui lui arrive ? Il va au tombeau, on lui a dit que le Christ est ressuscité, il arrive, il voit le linceul rouler, et il est dit dans l'Écriture, si je retrouve la page, vous voyez, il est dit dans l'Écriture qu'il vit et il crut. Et pourtant, il évite le tombeau. Il vit et il crut. Et la parole juste après, le verset suivant nous éclaire. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Il voit que c'est vide, il a en souvenir l'Écriture, il voit que c'est vide, il comprend que la réalité, grâce à l'Écriture, c'est que le Christ est ressuscité. Le même événement, il le voit différemment parce qu'il le voit dans la lumière de l'Écriture. Donc celui qui veut voir le réel totalement, le voit dans la foi, et comment il va nourrir sa foi, il la nourrit par l'Écriture. L'Écriture est le support de ma foi. Elle me permet, dans un acte de foi, de voir plus grand que moi-même, de voir le sens profond des choses. Le sens profond des choses, ce n'est pas les atomes, ou l'infiniment petit dans les atomes, ni l'infiniment grand dans les galaxies. C'est le pourquoi c'est fait, en vue de quoi. La science n'explique que le comment, la foi le pourquoi, ça va bien plus loin. Et voire même, elle donne accès à l'invisible. C'est pas à dire ce qu'on ne voit pas avec les yeux mécaniques, chimiques, mais ce qu'on ne touche pas, c'est purement spirituel. Donc la foi est une lumière, permet de voir tout le réel, et elle me permet de le toucher. Ainsi, toucher dans la foi, c'est être en contact. Quand vous serrez la main à quelqu'un, serrez-moi la main, fortement. Voilà. En fait, monsieur vient de me serrer la main fortement, quand je pose un vrai acte de foi, Dieu me serre plus fort. C'est-à-dire que je touche Dieu par la foi. Donc je touche l'invisible, j'ai contact avec l'invisible. Et cette habitude à toucher l'invisible dans un acte de foi, mon Dieu, je crois que ta parole est vraie, j'y adhère, petit à petit ça s'imprime en moi, et cette vertu de foi que j'ai au baptême se diffuse dans mon être. Et petit à petit, je vois la réalité sous un nouveau jour. Ça s'éclaire de manière totale. Et on voit souvent les gens qui exercent leur vertu de foi, quand ils démarrent dans la prière, bah, ils doutent. Bon, pas sûr, hein. On va essayer. Puis après, ils commencent à avoir la foi. Au bout d'un moment, le dialogue change. Ah, c'est vrai, j'ai rencontré Jésus. Okay. Et c'est épisodique. Puis au bout d'un moment, ils commencent à dire, non mais c'est vrai, il est là, hein. Tel signe. Mais au bout d'un moment, ils disent, enfin c'est vrai, d'ailleurs je ne peux pas douter, ils sont dans la pleine lumière. C'est-à-dire qu'on voit que la foi intérieurement est en train de les irradier, et qu'ils passent intérieurement de l'obscurité à la lumière. Et du coup, leurs yeux spirituels commencent à s'ouvrir, et la même réalité, ils la voient différemment. Si je prenais un exemple cinématographique, je dirais qu'ils sont sortis de la matrice, un film matrice. Ils sortent de la matrice, ils se rendent compte du réel. C'est une illumination, la foi. Et cela est aidé par le support de la foi qui est la parole de Dieu. Elle nous aide quand je pose un acte de foi dessus, comme pour Saint Jean qui, d'après l'Écriture, a compris que le Christ devait ressusciter 3 jours après, il voit le tombeau vide, l'Écriture l'aide, il pose un acte de foi, la réalité c'est qu'il ressuscite. Il voit la réalité dans la vie. Voyez. Donc, j'ai pas la foi. Non, tu sais pas voir parce que t'as pas l'habitude de poser des actes de foi. T'es pas encore illuminé, donc t'es pas encore saisi. Tu sais pas comment écouter. On va t'aider. C'est tout ça. On va t'aider à utiliser le téléphone. Enfin, ça, c'est ça. Donc, la foi est une lumière. La foi, c'est une écoute. Et d'ailleurs, dans la Bible, j'ai parlé de la parole de Dieu, c'est d'abord comme ça là. Dieu parle et il crée dans la Genèse. Et Abraham, notre père, dans la foi, nous dit l'Écriture, c'est celui qui a écouté Dieu. Et le Décalogue dira, comme premier commandement, écoute Israël, le Seigneur est l'unique. La parole de Dieu vient du fait que Dieu parle. Et donc la foi, c'est d'abord se mettre à l'écoute de Dieu. Et il est des fois difficile dans la prière de commencer à écouter Dieu. Il faut d'abord faire silence. Et c'est difficile d'apprendre à faire silence. Mais il faut essayer. Et des fois, dans le silence, ben, il n'y a que le silence. Mais on sort du silence et on est transformé. Il s'est passé quelque chose. Vous voyez ? L'acte de foi n'est pas sensible, n'est pas auditif. L'écoute spirituelle est plus profonde que auditive. Ça peut être auditif si Dieu dit une notion. Mais sinon, c'est plus profond. Mais il parle au cœur. Et avec le support de l'Écriture, je découvre ce qu'il me dit au cœur, même des fois. ça se révèle, ça s'éclaire. Il y a un mot de la parole qui nous touche. Voilà. C'est ces gens qui font cette expérience à l'écriture, de lire l'écriture, de l'écouter, et puis un jour de dire, c'est pas vrai, mais il parle. Comment ça, vous ne croyez pas? Avant? Ah non, mais là, on a l'impression qu'il parle. Et c'est normal. Parce que la foi, on se met à son écoute. Et vous voyez, se mettre à son écoute, me disait un vieux prêtre, un très bel exemple. Autrefois, les radios, maintenant c'est digital, donc ça ne marche plus, c'est électronique, c'est informatique. Autrefois, il fallait régler. Ça faisait des grisaillements. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fréquence. Trouver la fréquence dans la prière, ça peut être l'exercice spirituel. J'apprends, au-delà de mes sentiments, de mes idées, mon imagination, à me taire et dans le silence profond, à me mettre sur la bonne fréquence. Et si on est tout le temps dans le bruit, comment on veut entendre Dieu? Voyez, j'ai pas la foi. Non, tu ne te donnes pas le temps d'écouter. C'est très différent. Si tu apprends à écouter, tu l'entendras. Et tu verras qu'il te parle. Parce que Dieu parle toujours, il est parole. C'est un vrai problème. Une mystique du XXe siècle disait « L'homme avec son brouhaha a la capacité de faire taire Dieu. » Voilà. Donc il y a un vrai enjeu. La foi, c'est une écoute. Marie méditait toutes choses dans son cœur. C'est une écoute qui nous permet d'approfondir le réel. Et de cette habitude, nous sommes petit à petit éclairés, ça irradie, on est saisi. Il y a des certitudes qui se posent, Dieu se déploie en nous, c'est évident, et de petit à petit, on voit les événements totalement différemment. Et petit à petit, on sait ce que Dieu nous demande dans l'écoute. Ça, c'est important. C'est pas un pantin qui se laisse manipuler par quelqu'un qui commande une télécommande, la foi. C'est pas un acte, j'allais dire, idiot. Oh, t'as la foi, mais moi je préfère réfléchir. Non. La foi, c'est profondément intelligent. On dira que c'est supranaturel. C'est suprarationnel, au-delà du rationnel. C'est plus intelligent. Pourquoi? Parce que quand on pose un acte de foi, vous voyez, on peut dire j'ai la foi, mais on pratique pas la foi. Et on n'a pas plus la foi que ça. Il n'y a pas d'action. Donc l'important, c'est de poser des actes de foi. Sur la parole de Dieu, sur les événements, de poser un acte de foi, Seigneur, tu es là, je te rejoins dans le réel, je te touche dans la foi. Et cet acte de foi, c'est un acte d'obéissance. Je l'ai déjà dit, une des étymologies de l'obéissance en grec, c'est hupo akouein. Akouein, c'est le verbe écouter. Hupo, c'est un préfixe qui veut dire en dessous, écouter du dessous. Et en fait, c'est quoi? L'obéissance, c'est écouter quelque chose de plus grand et je me mets en dessous pour être disciple, pour écouter quelque chose de plus grand. C'est très intelligent. Ça veut dire que je me rends compte avec toute mon intelligence que ce qui va être dit est plus intelligent. Je démissionne pas. J'ai le droit d'utiliser toute mon intelligence, de m'y préparer. J'ai déjà dit que dans un autre enseignement qu'on peut démontrer l'existence de Dieu avec la raison, qu'on peut le penser. C'est ce qu'on appelle, l'Église appelle ça les préambules de la foi. Ça nous prépare. Mais à un moment donné, si on veut rentrer dans la foi, il ne s'agit plus d'abord de cogiter, il s'agit d'écouter du dessous quelque chose qui est plus grand, qui est digne de confiance, dont j'ai toutes les raisons rationnelles de penser que c'est vrai. Et si j'en ai pas assez de raisons rationnelles, j'ai à travailler les préambules de la foi pour me le rappeler. Mais une fois que c'est fait, j'ai toutes les raisons de penser que c'est plus grand que moi. Et donc à ce moment-là, j'y vais dans la foi. Et comme c'est plus grand, mais je ne vais pas d'abord dire à Dieu, je vais t'expliquer ce que t'es, je vais t'expliquer ce que tu dois me dire. À Dieu, c'est Dieu, je vais peut-être me laisser enseigner. Donc j'écoute du dessous, j'obéis dans la foi. Et c'est ce que dit Augustin d'une autre manière, crois pour comprendre. Et non pas d'abord comprends pour croire. T'accueilles ça dans la foi, tu vas être illuminé, tu vas mieux en mieux comprendre. Et après, tu as à nouveau le droit d'utiliser ton intelligence pour encore mieux croire. On peut travailler sa foi, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais d'abord, il faut croire, pour être illuminé de manière surnaturelle. Et après, j'utilise ma raison dans un registre surnaturel. Je ne détruis pas ce que me donne la foi, mais j'essaye de mieux comprendre pour mieux y adhérer. Vous voyez? Comment cela se fera-t-il? Disait Marie. Elle n'est pas en train de remettre en cause ce qu'elle reçoit dans la foi, elle veut y adhérer pleinement en investissant son intelligence. Et du coup, on voit que la foi, c'est un pèlerinage. Israël a fait un pèlerinage de foi, mais une prolongation de la connaissance de Dieu dans l'histoire du salut. Et de la même manière, la Vierge Marie, nous dit le magistère, elle avait la foi pure, la vertu foi pure. Toujours est-il, elle a approfondi durant sa vie, en méditant toutes ces choses dans son cœur, elle a été petit à petit irradiée par la lumière. Elle a compris petit à petit comment le Messie se donnerait. C'est pas dit dès le départ qu'elle a compris que le Messie allait être sauvé par la croix. Donc, on voit à ce moment-là que la foi qui nous éclaire sur le réel, qui est une lumière surnaturelle, qui nous saisit, qui nous fait toucher le réel plus fortement que nous touchons cette table ou la main de quelqu'un, qui est une écoute dont le support c'est la parole de Dieu, la foi, elle est aussi obscure, dirait Jean de la Croix, les mystiques. C'est-à-dire, elle n'est pas sensitive, elle n'est pas auditive. C'est un acte de mon être le plus profond à l'invisible. Et l'invisible se révèle comme il veut, quand il le veut, progressivement. Et je fais un pas dans la foi, j'ai juste la lumière pour faire ce pas, pas plus. Mais si je ne fais pas ce pas, j'aurai pas plus de lumière. Il faut que je fasse ce pas pour avoir un peu de lumière pour faire le prochain pas. Ça, c'est important. Misère, faut prendre temps. La foi est objective. Voyez-vous, quelqu'un qui ne pratique pas sa foi, qu'est-ce qui se passe? La foi ne l'illumine pas. Il n'est pas saisi. Il restera dans son doute. Mais s'il commence à saucissonner le credo, qui est le dépôt de la foi, que va-t-il se passer? Le credo n'est pas là pour nous dire « Les amis, nous vous imposons à croire ceci parce que nous le voulons et on vous l'impose. » Pas du tout. Le credo, c'est le résumé de l'expérience spirituelle, de la lumière surnaturelle. On peut dire que ce sont des bornes lumineuses. Tu enlèves un élément du credo, il y a une étoile qui brille en moins dans le ciel. Tu enlèves un élément du credo, c'est une expérience spirituelle que tu ne vas pas faire. Or, cette expérience spirituelle est nécessaire pour saisir Dieu. Donc, on voit bien quelqu'un qui commence à être critique avec le donné révélé, c'est-à-dire le credo, qu'est-ce qui se passe généralement? Il est moins fervent. Pourquoi? Parce qu'il est moins touché par Dieu. L'aspect critique, généralement, amène à ne plus toucher Dieu. C'est marrant, hein? On croit faire œuvre de raison, et en fait, on fait œuvre d'incroyance. Il y a ce phénomène qui se produit, d'où l'importance de quelque part d'accueillir le credo dans la foi, le donné surnaturel, et du coup de le comprendre de l'intérieur par l'intelligence. Croire pour comprendre et après comprendre pour mieux croire, mais pas de l'extérieur, sinon il n'est pas transformé. Et donc nous voyons que aussi, la foi, ce n'est pas ma foi. La foi, c'est quelque chose d'objectif qui m'est donné à mon baptême, qui est la foi des apôtres. Et c'est sur celle là-dessus que je vais pouvoir exercer en régime chrétien mon intelligence, mon adhésion. Et c'est là où ça va me transformer. Voilà. Une dernière chose qui est importante, on le voit aussi, c'est pas un jugement, mais c'est un constat qui peut nous éclairer dans la vie surnaturelle. Le sacrement, l'intérêt c'est de grandir à la sainteté dans la foi, l'espérance et la charité. Les sacrements nourrissent la foi. Par comme c'est quelque chose de surnaturel, je ne peux pas le produire tout seul. Comme je ne peux pas le produire tout seul, j'ai besoin d'être alimenté. J'ai besoin d'être alimenté, le sacrement nourrit ma foi. Il éclaire, il intensifie ce qui m'est donné au baptême. Il la restaure par la réconciliation. Il lui permet de se déployer. Et là, à nouveau, on fait cette expérience. Une pratique sacramentelle diminuée, généralement, diminue la ferveur, diminue l'adhésion de foi, et amène au relativisme. Vous regardez toujours dans l'histoire de quelqu'un, c'est pas un jugement catégorique, mais c'est souvent le cas, la perte de la foi est due à la perte sacramentelle, de la pratique sacramentelle. Parce que c'est le surnaturel qui n'a pas été pratiqué, et du coup, la vertu de foi ne s'exerce pas, et au bout d'un moment, « Ah mais j'ai pas la foi !» Mais non, t'as la foi, mais tu l'as décoiffée, elle est paralysée. Donc ça c'est vraiment important, nous pratiquons en fait les sacrements pour déployer notre foi.